très bonne question pour vous. Est-ce que le sort final sera le même pour les justes et pour les méchants? Le grand livre de Dieu va nous donner une réponse claire et instructive aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Je pense qu'on va voir à quel point Dieu est juste à travers l'enseignement qu'on va recevoir de sa parole aujourd'hui. Voici les questions auxquelles Dieu va répondre au cours de cette émission. Est-ce que la fuite est un moyen de résoudre nos problèmes? Qu'est-ce qui a conduit notre société à la dégradation? Qu'est-ce que le croyant doit faire quand il est éprouvé? Quels sont les sentiments de Dieu envers les méchants? Est-ce que le sort final sera le même pour les justes et pour les méchants? Est-ce que la puissance d'une Église dépend du nombre de ses membres? Où pouvons-nous trouver la vérité dans ce monde où on nous enseigne tant de fausseté? Est-ce que l'éloquence des menteurs leur sera utile au jour du jugement? Demeurez à l'écoute. Dieu a de beaux trésors à nous offrir aujourd'hui dans sa belle parole. Il va nous enseigner une fois de plus par la bouche du pasteur Régent Joly dans quelques instants. Mais premièrement, allons dans la présence de Dieu et demandons-lui de disposer nos cœurs afin que sa parole fasse effet dans chacune de nos vies. Prions. Ô Seigneur, oui, on a besoin de ta présence. Donne-nous de goûter à cette présence tout au long de l'enseignement que tu vas nous donner par la bouche de ton serviteur. Et que ta parole puisse vraiment faire effet dans nos cœurs, un effet durable, Seigneur, pour qu'on puisse mieux te servir chaque jour. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous examinons les psaumes 11 et 12. Le 11e psaume est un petit psaume de David rédigé par le chef des chantres. Nous ne savons pas avec certitude dans quelles circonstances il fut écrit, mais il est évident que ce fut pendant une période de persécution et d'épreuves dans la vie de David. Voici des paroles provenant du cœur de ce grand roi. Chers amis, débutons notre lecture. Le psaume 11, verset 1. Au chef des chantres de David. C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Chers amis, la fuite ne résout pas les problèmes. Les psychologues donnent souvent ce conseil aujourd'hui. Ils nous disent de partir et d'oublier nos problèmes un certain temps. Pars en voyage, fuis ta situation actuelle comme un oiseau qui va à la montagne. Mes amis, fuir un problème ne le règle pas. Nous ne pouvons jamais nous fuir. Si nous changeons de travail ou d'église pour fuir un problème sans le régler, nous nous retrouvons vite dans une situation semblable. Aujourd'hui, plutôt que de régler les problèmes dans un mariage et de le faire fonctionner, nous changeons de conjoint. Nous en prenons aux autres, mais nous n'avons toujours pas appris à régler le problème. Les conseillers de David lui disaient de fuir, mais ce n'est pas une façon de résoudre un problème. C'est bien de sortir de la ville pour échapper à notre train de vie quotidien, trépidant, pendant une fin de semaine. C'est très reposant. Mais si vous fuyez un problème ou une situation à laquelle vous devriez faire face, alors ce n'est pas un bon conseil. Vous ne devez pas partir parce que vous avez peur. Ceux qui conseillaient à David de fuir craignaient pour sa vie, parce qu'Axalom, son fils, cherchait à le tuer. Ceux qui marchent selon la chair pensent qu'il est justifié de fuir. La foi en Dieu est nécessaire, qu'importe l'époque dans laquelle nous nous trouvons. Elle est nécessaire dans toutes les situations. Sans la foi, nous ne pouvons pas marcher dans la bonne direction. Puisque c'est Dieu qui règne, il y a toujours de l'espoir pour ceux qui lui font confiance. Ceux qui marchent selon la chair pensent qu'il est justifié de fuir. écoutez plutôt ce que le Seigneur a à nous dire concernant nos conflits. Matthieu chapitre 18, verset 15. « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. » Le Seigneur nous demande à faire face à nos problèmes. Le psaume 11, verset 2. « Car voici, les méchants bandent l'arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde, pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. » Ceux qui suivaient Absalom étaient disposés à tuer David s'ils en avaient eu l'occasion. Il y avait de l'amertume dans les deux camps. Lorsque Absalom est monté contre son père, David n'a pas quitté le pays. David s'est replié le temps d'organiser son armée. Il a ensuite affronté son fils. David avait dit à ses trois chefs d'armée de ne pas tuer son fils Absalom. Le jeune homme commit une erreur en affrontant les vétérans de son père. David et ses hommes avaient l'expérience de la guerre. Absalom et ses hommes n'avaient pas le même bagage d'expérience et ils furent défaits. Cependant, il n'y avait pas d'amertume seulement du côté d'Absalom. Si David n'était pas amer contre son fils, Joab, un des chefs d'armée, l'était, et lorsqu'il en a eu l'occasion, il a tué Absalom avec sa lance. Il y avait de l'amertume dans les deux camps. La mort de son fils brisa le cœur de David. Je ne pense pas qu'il s'en soit remis. Lorsqu'Absalom a tenté d'usurper le trône, David fuit Jérusalem. C'était le chaos et le désordre total dans la ville. Le Dieu vivant n'était plus adoré. Les hommes de Dieu ne devraient pas être étonnés de la méchanceté qu'ils voient autour d'eux. Notez que les méchants tirent dans l'ombre, ils ont honte d'agir ouvertement. Verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Cette question est certainement d'actualité. Très peu de personnes reconnaissent l'autorité de la parole de Dieu. Les valeurs morales bibliques sont méprisées, rejetées. Il faut toujours s'en tenir aux principes fondamentaux de la foi. Lorsque l'on mine la confiance d'une personne en Dieu et que vous lui faites croire qu'aucune religion n'est bonne, alors vous en faites une personne misérable. Nos gouvernements ne fonctionnent plus selon les principes bibliques, et cela conduit à une dégradation de la société. Nos jeunes sont malheureux comme ils ne l'ont jamais été. Un soir, deux adolescentes sont entrées dans une de nos réunions de prière. Elles ont dit, honnêtement, qu'elle ne s'aimait pas. Que peut faire le juste lorsque les fondements sont renversés? Le psalmiste répond à la question. Verset 4. L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. Le juste doit s'accrocher à Dieu. Dieu nous surveille aujourd'hui. Il nous sonde et nous éprouve. Nous ne pouvons que nous tourner vers lui. Lorsque le fondement est attaqué, le juste doit s'accrocher à Dieu. Abraham a connu cela. Il était au milieu de païens qui ne craignaient pas Dieu lorsqu'il crut Dieu. Abraham s'est accroché à Dieu. Nous sommes dans des temps où nous devons croire Dieu et s'accrocher à lui. Chantons la gloire de notre Dieu. Personne ne pourra jamais usurper le trône du Créateur Tout-Puissant, et il sait tout. Puissions-nous trouver un encouragement dans les attributs de notre Dieu et tenir ferme pendant les temps d'épreuve. Écoutons attentivement Romains chapitre 5, versets 1 à 5. « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » À qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve et cette victoire l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Revenons au psaume 11, verset 5. L'Éternel sonde le juste. Il hait le méchant et celui qui se plaît à la violence. Dieu hait le méchant, pas seulement le péché. Dieu connaît ceux qui lui appartiennent et il les éprouve. Il me sonde, il le fait peut-être pour vous, présentement. Cela ne veut pas dire que Dieu nous hait, mais il nous sonde pour notre bien et pour sa gloire. Par contre, Dieu hait le méchant. Si un méchant refuse de se détourner de sa méchanceté, il est l'objet de la haine et même de la colère de Dieu. Dieu n'aime pas le diable, mais il le hait. Il hait ceux qui n'ont aucun désir de venir à lui. Souvent, nous entendons dire « Dieu aime le pécheur, mais il est le péché ». Dieu vous a tant aimé qu'il a donné son Fils afin qu'il meure pour vous. Mais si vous persistez dans votre péché, vous êtes un ennemi de Dieu. De plus, Dieu est votre ennemi. Dieu veut vous sauver, et il le fera si vous vous tournez vers lui et que vous délaissiez votre péché. En attendant, Dieu n'est pas votre grand-papa qui n'a que des gâteries pour vous. Dieu sonde le juste. Nous pouvons faire de belles prières en public alors que notre cœur n'est que vanité. Nous ne trompons pas Dieu et il ne prend pas plaisir dans les insensés. Verset 6. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre, un vent brûlant, c'est le calice qu'ils ont en partage. Dieu ne nous empêchera pas de remplir notre coupe d'iniquité. Je pense qu'elle est presque pleine. Les méchants prospèrent. Dieu fait pleuvoir sur le méchant aussi bien que sur le juste. Les méchants profitent de la pluie, des récoltes et des bienfaits matériels autant que les justes, même davantage parfois. Mais une fois la coupe pleine d'iniquité, c'est le jugement qui frappera les méchants. Les calamités finales qui frapperont les méchants seront horribles. Verset 7. Car l'Éternel est juste, il aime la justice, les hommes droits contemplent sa face. Seuls les justes verront la face de Dieu. Le Seigneur aime la justice. Pendant les périodes difficiles où les fondements même sont minés, il faut regarder vers le ciel. Levons les yeux vers le ciel, chers amis. Les justes verront la face de Dieu. N'est-ce pas merveilleux? Dieu donne raison aux siens qui passent par des tribulations, et il les justifie. N'oublions jamais que le juste et le méchant ont des fins très différentes. Nous pouvons envier les méchants qui sont dans l'abondance, mais leur sort final n'a rien d'enviable. Maintenant nous passons au psaume 12. Tout comme les psaumes précédents, le psaume 12 verra son accomplissement final pendant la grande tribulation qui frappera le reste d'Israël craignant Dieu, ainsi que les païens qui se convertiront pendant la tribulation. Le premier verset décrit l'apostasie de cette période. Il y aura une apostasie en Israël aussi bien que dans l'Église. Chers amis, débutons notre lecture. Le psaume 12, versets 1 et 2. Au chef des chantres, sur la harpe à huit cordes. Psaume de David. Sauf, Éternel, car les hommes pieux s'en vont, les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. Aujourd'hui, c'est facile de développer un complexe d'Élie de dire « Je suis le seul qui reste, je suis le seul qui défend la cause de Dieu ». De nombreuses personnes en arrivent à cette impression, mais elle est fausse. Cependant, cela peut se produire lorsque nous percevons l'impiété autour de nous. Ce n'est pas la première fois que le peuple de Dieu est réduit à un petit nombre. 8 personnes furent sauvées lors du déluge. Dans le temps du prophète Élie, seulement 7000 personnes n'avaient pas plié le genou devant Baal, un dieu païen. La puissance de l'Église ne provient pas du nombre de ses membres visibles, mais de celui qui est la tête de l'Église, c'est-à-dire Christ. Suivons l'exemple du psalmiste et appuyons-nous sur Dieu. Les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. Le péché qui est toléré dans l'Église l'infecte complètement. Les hommes qui craignent Dieu vont abandonner les assemblées qui tolèrent le mal. Verset 3. On se dit des faussetés les uns aux autres. On a sur les lèvres des choses flatteuses. On parle avec un cœur double. De nos jours, les chrétiens ont besoin de se lever et de proclamer la vérité. Nous ne devrions pas parler d'une façon en présence d'un homme et d'une autre dans son dos. La Bible appelle cela de l'hypocrisie. Nous sommes inondés par le mensonge. Certaines émissions de télévision présentent toutes sortes de choses qui ne sont pas prouvées ou qui sont fausses. Des cures, miracles, l'astrologie chinoise, des solutions pour les maux de l'âme, des théories psychologiques. Certaines de ces choses sont publiées simplement parce que cela plaît aux gens et que les livres se vendent bien. On cherche à plaire aux gens. Combien de temps mettons-nous à écouter tout cela? Combien de temps précieux perdons-nous, du temps que nous aurions pu consacrer à la lecture et à l'étude de la parole de Dieu? Aujourd'hui, les gens retournent aux faussetés païennes d'autrefois. Nous sommes témoins d'un retour au paganisme. Une école de druides a été ouverte en Europe. Nous avons des cultes sataniques en Amérique. L'athéisme, quoique commun, est maintenant à la baisse dans le monde. Mais en Europe, cela ne se traduit pas par un nouvel essor du christianisme, mais par un retour au paganisme. Poursuivons notre lecture, versets 4 et 5 du psaume 12. Que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses, la langue qui discourt avec arrogance, ceux qui disent « Nous sommes puissants par notre langue, nous avons nos lèvres avec nous, qui serait notre maître ?» Le psalmiste s'en prend aux orgueilleux dans ce psaume. Ils disent « Nous dirons ce que nous voulons bien. » Dans l'Église, l'apostasie est caractérisée par ce type d'orgueil. Jude a prédit que l'apostasie viendrait. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Jude, verset 16. Cela revient à dire que ceux qui commettent l'apostasie sont des menteurs. L'éloquence sera inutile le jour du jugement. Ceux qui mentent verront leurs propres mensonges exposés un jour lorsque l'Éternel viendra exterminer les lèvres flatteuses. Les jugements qui frappent les méchants sont annonciateurs du jugement éternel. L'avenir des méchants est sombre car leur espoir repose sur leurs mensonges. Lorsque Dieu les jugera, leur éloquence ne leur sera d'aucune utilité. Des erreurs des méchants, nous apprenons trois leçons qui contredisent leurs paroles. Premièrement, nous ne possédons rien car tout appartient à Dieu. Deuxièmement, Dieu nous donne des biens afin que nous les mettions à son service. Troisièmement, quoi que nous fassions, nous devrons rendre des comptes à Dieu. Maintenant, voyons ce que sont les enfants de Dieu. Verset 6. Parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent, maintenant, dit l'Éternel, je me lève. J'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffle. Dieu dit qu'il protégera ceux contre qui l'on souffle. Il les cachera dans la fissure d'un rocher. Il les mettra dans un endroit sûr. Verset 7. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre au creuset et sept fois épuré. Les méchants se vantent et usent de flatterie. Nous ne pouvons pas croire ce qu'ils disent, mais les paroles de Dieu sont pures. C'est pourquoi nous devons passer plus de temps à lire et étudier sa parole. C'est la forteresse avec laquelle Dieu veut nous protéger. Versets 8 et 9. Toi, Éternel, tu les garderas, tu les préserveras de cette race à jamais. Les méchants se promènent de toutes parts quand la bassesse règne parmi les fils de l'homme. Parce que Dieu nous garde et nous protège, les ennemis de Dieu travaillent en vain. Qu'importe si les ennemis sont nombreux et si les amis se comptent sur le bout des doigts, cela n'empêchera pas Dieu de faire justice aux siens. Tout ce que produisent les méchants n'est que vanité. Ce psaume décrit très bien les temps dans lesquels nous vivons, et il sera particulièrement vrai pendant la période de la grande tribulation. Écoutez ce qu'a dit le prophète Ésaïe. Écoutez la parole de l'Éternel, vous qui craignez sa parole. Voici ce que disent vos frères, qui vous haïssent et vous repoussent à cause de mon nom. Que l'Éternel montre sa gloire, et que nous voyons votre joie. Mais ils seront confondus. Ésaïe chapitre 66, verset 5. Ceci décrit ce qui se passera au temple de Jérusalem à la fin des temps. Lorsque ses ennemis vinrent l'arrêter, le Seigneur Jésus a dit, « Mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. » Luc, chapitre 22, verset 53. Nous sommes dans une période où l'adversaire semble l'emporter, mais Dieu ne permettra pas qu'un malheur frappe les siens, à moins que cela ait un but utile dans leur cœur et dans leur vie. Les paroles de Jésus sont rapportées par l'évangéliste Jean, qui nous parle de cette grande vérité. Jean chapitre 15, verset 18. « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. » S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et que je ne leur ai point parlé, ils n'auraient pas de péché, mais maintenant ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui me hait est aussi mon père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus, ils ont haï, et moi et mon Père. Les versets 18 à 24 de Jean, chapitre 15. Chers amis, avons-nous une foi ferme et simple dans l'épreuve? Ce dont nous avons tous besoin, ce n'est pas moins d'épreuves, mais une foi ferme et simple. Lorsque tout va bien, c'est facile de dire « Alléluia, gloire à Dieu !» Mais lorsque ça va mal, nous n'osons pas blasphémer ouvertement. Mais nous sommes prompts à accuser Dieu de ne pas tenir parole. Si le secours de Dieu tarde, nous doutons de sa fidélité, même de sa bonté. Nous sommes tous prêts à dire que Dieu est vérité, mais peu l'affirment vraiment lorsqu'ils sont dans l'adversité. Et pourtant, lorsque nous savons ce que l'adversité peut faire à notre foi, c'est ce que nous lisons, rapporté par l'apôtre Pierre, 1er épître de Pierre, chapitre 1er, verset 6. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Dieu a un but bien précis depuis qu'il a débuté son œuvre dans votre vie, dans ma vie. Ce qu'il veut atteindre, c'est l'image parfaite de Christ. Et à travers les épreuves, Dieu est en train d'œuvrer dans ma vie et dans ta vie. Si tu es devenu croyant, si tu t'es repenti de ton péché et si tu t'es tourné vers le Christ pour l'implorer en tant que sauveur et maître de ton existence. Si l'or est éprouvé ou purifié par le feu, ta foi deviendra ce que Dieu veut qu'elle soit à travers les épreuves. C'est lorsque ça va mal que Dieu est en train de vérifier vers qui nous allons nous tourner. Chers amis, profitons de cette occasion pour poursuivre notre lecture, cette fois en lisant les psaumes 13 à 15. Bonne lecture!
Merci beaucoup, Régent. Tu as mentionné aujourd'hui que lorsqu'un croyant est éprouvé, il doit s'accrocher à Dieu. Et tu as terminé la leçon en nous démontrant comment on peut s'accrocher à Dieu. Tu as dit que ce qu'on a besoin, ce n'est pas moins d'épreuves, mais une foi ferme et simple. Et c'est donc vrai qu'on est porté à douter de la fidélité de Dieu quand son secours tarde à venir. Mes amis, j'ai découvert à travers les années que le moyen d'avoir une foi ferme, c'est de connaître notre Dieu. de connaître sa parole qui nous donne tous les moyens de marcher par la foi. Si je ne connais pas ce que la Bible dit dans telle ou telle situation, je ne saurais pas que faire. J'aurais beau dire « Ah, Dieu va m'aider », mais je ne recevrai pas les encouragements qu'il veut me donner par sa parole. Par exemple, un jour, j'étais vraiment dans une grosse épreuve. J'étais angoissée. Je me sentais seule au monde pour résoudre le problème auquel je faisais face. Et Dieu m'a rappelé un verset de sa parole. Un verset qui m'est souvent très utile dans toutes sortes de circonstances difficiles. Je l'ai peut-être déjà mentionné, mais je vais vous le redire. Parce que, à travers ça, je l'ai même appris par cœur. Parce que je voulais que ça devienne mon aide-mémoire quand j'en avais besoin. C'est le verset 10 du 41e chapitre du livre d'Ésaïe. Et le Seigneur me dit, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Mes amis, quel encouragement dans un seul verset de la parole de Dieu. Je ne connais pas la solution à mon problème, mais je sais que Dieu est en train de me secourir sans même que je voie ce qu'il est en train de faire. Et quand je suis fatiguée et que je me sens trop faible pour continuer, il me rappelle ce qu'il a dit, encore dans le livre d'Ésaïe au 40e chapitre, verset 29. Il donne la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Il y a des versets que plusieurs croyants connaissent, presque par cœur, et qui ne semblent pas faire d'effet quand on les parcourt dans nos lectures continues. Mais quand j'en ai besoin, au sein de l'épreuve, ils deviennent pour moi un rafraîchissement extraordinaire. C'est comme si je les lisais pour la première fois. Par exemple, ce que Jésus a dit dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 11, des versets 28 à 30. « Mon ami, tu es peut-être éprouvé, épuisé et même découragé en ce moment. Écoute bien ce que Jésus te dit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Mon ami, remets ton fardeau entre les mains du Seigneur. Tu es peut-être faible, mais il est fort. Il veut te donner le repos. As-tu remarqué qu'il a dit « le repos » et non « un repos quelconque » Jésus donne le repos de l'âme. Il donne la paix qui surpasse toute intelligence quand on place notre confiance en lui seul pour le pardon de nos péchés. Alors crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Repens-toi, détourne-toi du péché, tourne-toi vers le Seigneur. Demande-lui de te sauver, de te donner la vie éternelle et il va le faire, c'est sûr.
Cher ami, tu viens d'entendre ce message. Il y a peut-être des choses plus ou moins claires à ton esprit. Nous sommes prêts à prendre du temps avec toi et de pouvoir les expliquer.
Quand j'entends un message pour la première fois, c'est pas toujours clair pour moi. J'ai besoin d'être éclairé de nouveau. Et c'est comme ça que, toi, tu peux recevoir cet enseignement. Appelle-nous, il y a quelqu'un qui va te le réexpliquer, puis tu vas le comprendre, aussi simplement que ça.
Nous avons des gens disponibles en tout temps.
Ils vont parler avec toi. Ils vont t'expliquer les Saintes Écritures, ils vont répondre à toutes tes questions.
Et tu pourras parler librement. On est là pour t'écouter.
Tu peux être sûr, on va écouter ce que tu as à dire. Et si tu es souffrant, mais c'est le temps de le partager avec nous. Parce que la parole de Dieu a de belles consolations pour toi.
Parle-leur à cœur ouvert. Dis-leur le fond de ta pensée.
Oui. Fais-toi connaître. Et tu vas connaître en même temps ton grand Dieu, ton Dieu merveilleux. Appel.
Pour nous rejoindre, au téléphone
1-877-LESPOIR 1-877-537-7647 ou à notre adresse courriel
www.radioespoir.ca ou à l'adresse postale
Radio Espoir, casier postal 34-143 Charlebourg, Québec, G1G6P2.
Chers amis, au revoir.
Bye bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.